8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les étudiants dans la précarité face à l'inflation. En France, 56% des étudiants avouent ne pas manger à leur faim. 40% des étudiants qui vivent seuls sont en situation de pauvreté, selon le ministère des Solidarités. Alors bien sûr, il y a le logement qui absorbe plus de la moitié du budget d'un étudiant, mais surtout la nourriture qui a énormément augmenté, les dépenses liées à la scolarité, à la santé. Le coût de la vie étudiante globalement a augmenté de près de 7% selon les syndicats étudiants. Les files d'attente s'allongent dans les associations de distribution d'aide alimentaire qui voient désormais aussi des étudiants de la classe moyenne. Le système des bourses n'a pas été réformé depuis des années. Les revalorisations financières se situent en dessous de l'inflation. Alors faut-il élargir les aides ou plutôt cibler davantage les étudiants les plus fragiles? Et puis il y a aussi ces étudiants qui vivent à des milliers de kilomètres de leur famille, français d'outre-mer, et également les étudiants étrangers, qui constituent près de 12% de la totalité des étudiants en France et qui sont limités dans leur droit de travailler parallèlement, qui payent des droits de scolarité extrêmement importants aujourd'hui et qui se retrouvent eux aussi en première ligne face à la précarité. Pour discuter de tout cela, Maëlle est avec nous, 20 ans, étudiante à Sciences Po Paris, en échange à Berlin. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Dans une de vos vidéos postées le 1er novembre dernier sur TikTok, vous avez raconté en larmes votre situation financière désespérée face à l'inflation. Également avec nous, Félix Sosso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la FAGE, un des principaux syndicats étudiants. Vous êtes vous-même étudiant en quatrième année de médecine à Amiens, à l'université de Picardie. Également avec nous, Louis Boyard, bonjour.
Bonjour.
22 ans, député du Val-de-Marne, la France insoumise, NUPES. Vous avez commencé votre carrière de militant politique au lycée. Vous étiez président de l'Union nationale lycéenne et vous êtes l'un des plus jeunes députés de l'Assemblée nationale. Également avec nous, Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
Et chez vous, bien sûr, les voisins, comment faites-vous face à l'inflation sur les campus? Vos messages nous intéressent aussi. Vous pouvez les poster sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et alors évidemment, pour bon nombre de pays, le sujet est un vieux sujet, la précarité étudiante. Moussa, à Niamey, au Niger, à 23 ans, étudiant en troisième année de licence de lettres modernes. Il nous dit « Moi, je donne des cours du soir, je tiens une petite boutique à la maison, je vends des produits du quotidien. Certains étudiants n'ont même pas de quoi payer les frais d'inscription qui s'élèvent à 10 000 francs CFA, c'est-à-dire à peu près 15 euros. » Fernand, aussi à Mbujimaï, en RDC, 22 ans, étudiant en deuxième année de Sciences Po. « Pas de cantine universitaire chez nous, on achète notre nourriture au coin de la rue. » Tout simplement du foufou, de la farine de maïs, parce que c'est consistant. Avec l'inflation, nos repas ont plus que triplé.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Les pâtes pour les étudiants français, le foufou pour les étudiants congolais, il y a comme une convergence des problèmes. Maëlle, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris en quatrième année d'un double cursus avec la Freie Universität de Berlin. Dans votre vidéo de ras-le-bol qui a été vue plus de 8 millions de fois en 3 jours, vous évoquez un montant de bourse qui n'a fait que baisser d'année en année alors que vos parents vivent à Mayotte, un territoire français d'outre-mer, avec une mère entre guillemets, trop bien payé. Votre bourse est à peu près équivalente à 100 euros par mois. C'est ça, hein, Maëlle?
Oui, c'est ça. La bourse que le Crous me donne, c'est 108 euros.
C'est ça, la bourse du Crous. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes?
Alors, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? J'ai eu une cagnotte après cette vidéo. Donc déjà, ça a été la solution pour mon... Enfin, financièrement, c'était ma solution. Avec le Crous, ça n'a pas avancé malheureusement. J'ai demandé donc une bourse de l'État allemand et donc maintenant j'ai plus la bourse du Crous parce que je peux pas avoir les deux aides.
Donc ce sont les Allemands qui payent vos études, qui vous aident à payer vos études à Sciences Po Paris en fait.
Alors techniquement, je suis comptée comme étudiante et à Sciences Po et en Allemagne, donc c'est pour ça que je peux avoir cette bourse.
La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau avait répondu tout de même à votre cri de détresse.
Alors, elle a répondu en parlant des réformes qu'elle a déjà prises en septembre et ma vidéo date de fin octobre, donc c'est-à-dire que les mesures de septembre n'étaient pas assez. Et donc, elle a répondu en juste redisant ce qu'elle avait déjà fait, qui n'était pas assez.
C'est-à-dire que vous n'avez techniquement pas pu obtenir une réévaluation de l'échelon de votre bourse, c'est ça ?
Non, en fait, oui, c'est pour ça, c'est pas possible de réévaluer mon échelon parce qu'en fait, mon échelon dépend de ce que le gouvernement a décidé en juillet 2022 pour l'année. Et en fait, ils ont décidé de pas prendre, de quasiment pas prendre en compte la situation des étudiants des Outre-mer. Donc c'est pour ça que mon dossier peut pas être réévalué, sauf s'il y a une réévaluation de la politique. Voilà.
Parce qu'en fait, votre mère, elle touche une aide ciblée pour faire face à l'inflation dans les territoires d'outre-mer. Hein, c'est bien cela.
En fait, c'est pas que à cause de l'inflation, c'est en général la vie chère. En fait, dans tous les outre-mer, le niveau de vie est plus élevé. Donc c'est pour ça que je pense que tous les fonctionnaires, en tout cas, touchent une augmentation du salaire selon le pourcentage de vie chère.
Est-ce qu'aujourd'hui, votre histoire, elle sert à quelque chose dans le fond, Maëlle ?
Alors j'aurais aimé que ce soit encore plus utile, mais je pense qu'il y a eu en tout cas une aide qui a été débloquée pour les associations de distribution alimentaire aux étudiants. Donc c'est déjà quelque chose. Après c'est 10 millions d'euros, donc en soi, si on regarde vraiment comment il faudrait augmenter le budget pour les étudiants, ce serait des milliards et des milliards. Ce serait aussi une politique qui est réfléchie derrière, avoir un projet, avoir pensé en fait aux étudiants comme une catégorie qui compte. Donc il y a encore beaucoup de travail, mais je pense qu'au moins ça a permis de sensibiliser pas mal de personnes, et j'espère que ça va continuer et qu'on va continuer à en discuter, en tout cas.
Et vous restez en liison avec nous, bien sûr, de Berlin, hein, Maëlle. Félix Sosso, vous êtes porte-parole de la FACH. Selon un rapport du SAMU social, un quart des étudiants qui vont chercher des colis à l'aide alimentaire déclarent qu'ils ont faim. Ce rapport parle de pauvreté étudiante ancrée dans le temps, donc une pauvreté structurelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'inflation?
Bah, tout à fait. Ce constat de précarité étudiante structurelle, on le fait depuis déjà des années. La crise sanitaire a exacerbé, et ça on le dit très régulièrement, un problème qui était déjà existant. En l'occurrence, pour du très pratique, nous on le constate chaque jour au sein de nos épiceries sociales et solidaires, les agorées. On a vu qu'il y avait un changement de public au sein des agorées, où habituellement on avait des étudiants issus de familles défavorisées, des étudiants précaires, qui étaient un peu en dehors du système de bourse. Comme l'a évoqué Maëlle, il y a de nombreux trous dans la raquette dans ce système de bourse, notamment le fait qu'il soit par échelon, que ce soit la situation des parents qui soit utilisée, en plus des parents N-2, donc comme l'a dit Maëlle, une revalorisation...
N-2, ça veut dire quoi ?
De deux années précédentes, puisque c'est la déclaration fiscale qui fait foi sur les deux années avant, ce qui est donc pas du tout adapté à la situation actuelle et encore moins à la situation de l'étudiant, de l'étudiante. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a eu aussi beaucoup d'étudiants issus plutôt de classe moyenne qui se sont retrouvés dans des situations de précarité, soit parce que y a une crise sanitaire, donc ça je l'apprends encore une fois à personne, et la situation s'est dégradée, ils ont pu perdre un job étudiant, un job qui leur permettait de survivre.
Alors aujourd'hui, des jobs étudiants, il y en a quand même beaucoup, hein, au contraire.
Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup d'étudiants qui ont dû taper sur des radars financiers. En l'occurrence, pour mon cas, j'ai dû contracter un prêt étudiant de 20 000 euros pour pouvoir continuer à faire mes études, puisque il faut bien financer un appartement, de la nourriture, des déplacements, etc. Donc là, oui, certes, il y a du job qui revient, et encore, le salaire étudiant, c'est et surtout contraint.
Et vous êtes étudiant dans une université publique, hein, en médecine, donc les frais d'inscription sont extrêmement bas.
Ah oui, concernant, oui, 170 euros, mais après, il y a tous les frais d'y courante. Et encore, bon, j'habite à Amiens, donc le coût de la vie est un peu moins que celui à Paris, par exemple, mais c'est quand même en fait, des charges importantes à supporter. Et là, en plus, il y a une inflation courante à 7 et quelques pourcents, mais sur des produits alimentaires, on est plus autour de 12% sur la fin décembre en prévision. Il y a aussi une augmentation du prix de l'énergie qui est assez importante. Depuis des années, il y a un marché locatif, surtout du privé, qui va aussi augmenter ses tarifs depuis, des années. Il y a des dizaines de pourcents d'inflation en fonction des villes. Et ça sachant que le logement est la première dépense d'un étudiant, on est sur des paniers assez contraints.
Vous diriez qu'aujourd'hui, on a une génération qui, clairement, met ses études en péril ?
Ah oui, clairement, puisqu'on a un étudiant sur deux qui se salarie. Et parmi ces étudiants, en plus, la majorité travaille plus de 12 heures par semaine, ce qui a un impact direct sur la réussite pédagogique. Et puis encore une fois, j'insiste dessus, le modèle de l'enseignement supérieur qu'on veut, ce n'est pas un salariat contraint, ce n'est pas d'être obligé de travailler pour financer ses études. Et c'est surtout que cette obligation de travailler, ça se répercute surtout sur les enfants de familles qui sont le moins favorisées, qui ont déjà des difficultés pédagogiques à l'entrée de l'université, qui ne sont déjà pas forcément favorisées par les procédures d'admission dans l'enseignement supérieur. Et ça pour conséquence d'avoir en fait une sélection sociale entre universités et de perpétuer cette sélection sociale tout au cours du cursus.
Louis Boyard, vous étiez hier soir à l'Université de Bordeaux pour participer à une conférence notamment sur la précarité étudiante hein, et qui a été interrompue par des militants d'extrême droite violents. Est-ce que clairement le sujet est en train de monter dans l'agenda politique ?
Non, les militants d'extrême droite se fichent de la précarité étudiante, ils savent pas ce que c'est. Donc eux, ils étaient plus venus parce que ils ont envie de... Oui, ils veulent pas qu'on s'exprime.
Parce que vous étiez là ?
Oui, moi et mon collègue Carlos Martins Bilongo. Mais enfin, clairement, l'extrême droite chez nous, elle est au Rassemblement National, à l'Assemblée. Et eux, leur proposition, c'est de donner 200 à 300 euros, mais uniquement aux étudiants qui travaillent. Ce qui veut dire que vous mettez pas la fin aux salariés étudiants, et en plus, vous permettez pas aux étudiants de sortir du seuil de pauvreté. Donc l'extrême droite n'y connaît rien à la précarité étudiante. Après, le problème que nous on a en France, c'est un problème que tout le monde a dans tous les pays. C'est que on demande à des étudiants de consacrer tout leur temps à faire des études et du coup se pose la question de comment est-ce qu'ils survivent, où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour pouvoir financer ces études et financer leur quotidien. On demande aux familles de financer les études, de financer l'autonomie des jeunes, de financer leur vie. Problème, en France, vous avez 10 millions de pauvres. Donc, vous avez des familles qui ne peuvent pas aller aider ces étudiants. Et j'aimerais mettre un parallèle. Pour le grand âge, pour nos grands-parents, on n'imaginerait pas de demander aux 10 millions de familles pauvres de financer la vie des grands-parents. On a mis en place un système de solidarité nationale qui leur permet de survivre. Et j'ai fait une proposition de loi pour une allocation d'autonomie qui permet de vivre, enfin de donner de l'argent aux étudiants pour qu'ils puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté pendant leurs études. Et en fait, il faut passer d'une solidarité familiale à une solidarité nationale. C'est la seule solution qu'on a pour éradiquer la précarité étudiante.
À l'heure actuelle, une concertation sur la vie étudiante a été lancée début octobre. Elle débouche sur quoi, Félix Sosso ?
Pour l'instant, pas grand-chose, puisqu'on attend les annonces qui vont avoir lieu en janvier. Nous, en l'occurrence, on n'est pas forcément particulièrement très optimiste sur ce qui va être annoncé, pour la simple et bonne raison qu'on a eu l'annonce de peu de moyens qui allaient être mis sur cette réforme. L'enveloppe va vraisemblablement pas être bien rallongée. Et ce qu'on appelle depuis des années, c'est une réforme structurelle.
Il y a eu les mesures d'urgence tout de même.
Oui, un empilement de mesures palliatives.
10 millions d'euros pour soutenir les associations d'aide alimentaire aux étudiants.
Oui, alors 10 millions, bon, si on rapporte ça au budget des bourses sur critères sociaux qui équivaut à peu près 2 milliards, bon, c'est vraiment pas grand-chose.
Bon, les bourses qui ont été revalorisées de 4%.
Oui, tout à fait, l'élargissement du ticket rue aussi à 1 euro. Bon, on a eu un tas de mesures, encore une fois, j'insiste, palliatives.
Il y a les repas à 1 euro aussi dans les restaurants universitaires.
Ah ben, ça aussi, on peut en parler, puisque l'augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires de pratiquement 20% depuis le début d'année a aussi pas permis à des étudiants qui en avaient plus besoin de bénéficier de ces repas-là. Et puisque les moyens ne sont pas suffisants pour les CROUS, donc on a beau mettre un repas à 1 euro, il y a aussi...
Tout le monde ne peut pas y accéder, c'est ça.
Alors si, puisque ça a été élargi, cependant, il n'y a pas suffisamment de moyens humains ni de moyens logistiques pour permettre à tout le monde d'avoir ces repas-là effectivement. Parce que donc le repas est 1 euro et c'est très bien. Cependant,
ça veut dire quoi ? Concrètement, on arrive
suffisamment de monde. On fait, quand on a une heure, par exemple, le midi pour manger, on va faire 45 minutes, 50 minutes de queue. Soit ça laisse pas de temps pour manger, soit on peut juste pas manger. Donc en fait, c'est très bien d'élargir, mais sauf que si on n'a pas les moyens logistiques et humains derrière, ça sert pas à grand chose.
On est quand même dans un pays où on a 1,5 million d'étudiants qui sont concernés par des aides sociales, hein, si on compte les aides, les allocations au logement notamment. Donc c'est près de la moitié des étudiants en France.
Pratiquement, mais si on prend l'exemple de l'échelon 0 bis, donc la Maëlle en a parlé tout à l'heure.
L'échelon 100, plus bas. Hein.
C'est ça, c'est 100 euros par mois. Donc 100 euros par mois, alors donc c'est très bien d'avoir 100 euros par mois, mais je pense que c'est largement insuffisant pour pallier au coût de la vie qui est en augmentation et qui est déjà très élevé. Si on prend le cas d'un panier étudiant, on parlait du seuil de pauvreté, il y a quand même un étudiant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas avec 100 euros par mois qu'on sort les étudiants de la pauvreté.
Restons encore dans le constat de ce qui ne va pas, des trous dans la raquette, hein, comme vous le dites, Philippe Sosso. Philippe Aguillon, d'un point de vue, vous qui êtes économiste, d'un point de vue économique, laisser la précarité étudiante perdurer, est-ce que c'est un bon ou un mauvais calcul dans un pays où, à l'heure actuelle, les entreprises peinent notamment à recruter ?
Je pense que c'est un mauvais calcul parce que on n'investit pas assez dans le capital humain. Je pense que la grande ressource que nous avons, nous, pour la croissance, pour la prospérité, c'est le capital humain. Et donc, on sous-investit dans le capital humain. Et pour pouvoir permettre aux jeunes de se former, il faut leur donner l'autonomie. Il faut l'autonomie et le co-investissement dans la formation et le capital humain. Et donc, il y a toute cette vision à droite. Alors, le gouvernement pousse de plus en plus à droite, malheureusement. Moi, je suis un déçu parce que je vois que le macronisme tire à droite de plus en plus. On considère que toute allocation vaut assistanat et pousse l'individu à la paresse. Et moi, je considère qu'un revenu universel d'engagement pour les jeunes eh bien, c'est l'idée de l'autonomie et du co-investissement dans la formation et le capital humain. Et c'est un investissement dans l'avenir.
Alors, on va rediscuter de vos propositions. Vous êtes tout de même étiqueté comme économiste libéral. Hein. Pour qu'un pays se... Faisons un petit peu de pédagogie. Pour qu'un pays se développe bien économiquement, il faut combien en pourcentage d'une classe d'âge ou de la population diplômée de l'enseignement supérieur ?
Ce n'est pas tellement qu'il faut une... Je crois qu'il faut vraiment investir dans la formation des jeunes, que les jeunes puissent vraiment, vraiment avoir les moyens de se former, d'étudier comme il faut. Moi, par exemple, ma dentiste, elle devait sauter des repas pour terminer ses études. Sinon, l'alternative, c'était de travailler de beaucoup plus et du coup, de ne pas faire de bonnes études. Et donc, c'est ça qui est inacceptable. Il faut permettre à des jeunes qui veulent étudier, mais qui évidemment doivent travailler. Il faut qu'il y ait une obligation de réussite aux examens. Il faut travailler, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent en faculté qui ne travaillent pas. Donc il faut suivre, et c'est le système danois. Et donc moi je propose le système danois, c'est-à-dire que c'est un contrat. Je te finance, mais évidemment je vais suivre. Tu peux rater des examens, mais tu dois les repasser. Et tu ne peux pas ne jamais te présenter aux examens et ne pas suivre tes études. Donc, il y a... Ça, c'est le système danois. Et c'est un, on viendra peut-être tout
oui,
à l'heure...
Oui, on va venir un peu plus dans les détails sur vos propositions. Mais pour qu'on comprenne bien, déjà, quand on utilise le mot « travailler », il y a « travailler pour ses études » et « travailler pour subvenir à ses besoins ». Et c'est le même mot. Alors, ça peut prêter à quelques ambiguïtés. Dans le monde entier, il y a des étudiants qui travaillent, y compris d'ailleurs dans des milieux favorisés. C'est même parfois vécu comme quelque chose de formateur, de... capable d'apporter de la maturité. Les étudiants américains en savent quelque chose, même s'ils sont plus que surendettés. À partir de quel seuil un étudiant met en péril ses études ? À partir de quel volume horaire de travail, de petit boulot étudiant ? Qu'est-ce que vous diriez, Félix Sosso ?
Il me semble que c'est 12, entre 12 et 14 heures par semaine. Et
puis, de toute façon, au-delà de 12 à 14 heures par semaine...
Il y a un impact significatif sur les études, il me semble. Bon, peut-être que
Philippe Aguillon ?
Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas que ça aille au-delà de 12-15 heures par semaine de travail, quoi. De travail, en plus, de travail, disons, de travail au sens vie active. Vous voyez ce que je veux dire ?
Louis Boyard.
Il ne faut même pas de travail du tout. À partir du moment où on considère que le travail permettrait d'avoir un côté pédagogique, et bien dans ce cas, peut-être qu'il faut réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour que dans la pédagogie, on puisse mettre en place, par exemple, des stages. Ou,
ça s'appelle ou l'alternance. Hein.
Non, pas du tout. Enfin, l'alternance, c'est quand on utilise des jeunes et qu'on les fait travailler subventionnés à fond par l'État. Non, ça n'a rien à voir. En fait, quand on demande à un étudiant de faire des études, on lui demande pourquoi. On lui demande pour qu'il apprenne des choses. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on demanderait à des étudiants de travailler à côté dans des choses qui n'ont rien à voir avec leurs études. Si jamais vous voulez vraiment, vous pensez qu'il y a un bon côté à ce que ces personnes puissent aller sur le terrain, alors faites-le de façon pédagogique.
Maëlle, vous, les différents jobs étudiants que vous avez, y compris à Berlin, c'est quelque chose qui vous freine dans vos études à l'heure actuelle à Sciences Po Paris ?
Moi, clairement, ça m'a toujours freiné dans mes études, c'est-à-dire que j'ai perdu énormément de temps à travailler dans des choses qui ont rien à voir.
Quoi, par exemple ?
J'ai fait du babysitting, beaucoup. J'ai donné des cours particuliers de maths. J'ai fait de l'aide aux devoirs. En fait, c'est des choses, ça n'a pas à voir avec mes études, qui sont clairement de la science politique et de la recherche. Et moi, je pense que c'est formateur de travailler dans une certaine échelle. C'est pas formateur de travailler à s'épuiser et de plus avoir le temps pour ses partiels. Et en France, si on veut travailler en rapport avec ses études, c'est très difficile parce que souvent, on se retrouve dans des positions de stage non rémunérés ou rémunérés 3,50 € de l'heure. Mais il n'y a pas des bons jobs étudiants avant le master.
Alors que vous êtes à Sciences Po Paris, qui est quand même... En plus, des études particulièrement sélectives.
C'est que si jamais on considère que le travail peut avoir sa place dans les études, que c'est formateur, alors il faut le faire en lien avec le domaine des études, c'est ce qu'explique Meg. Mais j'aimerais aussi dire autre chose, c'est qu'il y a des boîtes qui se sont construites sur le fait de faire travailler des étudiants, notamment de ne pas les salarier et de leur donner un contrat auto-entrepreneur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui existent sur la précarité étudiante, qui utilisent ces étudiants qui ont besoin d'un travail de 12 heures heure et qui sera payé moins qu'un SMIC. Et il y a des entreprises qui se sont montées sur ça. Et enfin, sur la question du travail, il y a deux catégories d'étudiants, ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et quand vous avez travaillé pendant 12 heures, que vous arrivez au moment du partiel et que vous êtes assis à côté d'un autre élève qui lui a la chance de ne pas avoir à travailler parce que sa famille est aisée, où est-ce qu'elle est l'égalité républicaine? Parce qu'au fond, la question du travail étudiant, ça pose aussi la question de qui ne travaille pas et qui travaille. Et c'est les classes populaires qui travaillent, c'est les classes aisées qui ne travaillent pas. Et à la fin, c'est les classes aisées qui se retrouvent à pouvoir le plus facilement réussir leurs études et les classes populaires qui se retrouvent enfermées dans leur classe sociale.
Le travail étudiant aujourd'hui est plus large, hein, qu'il touche plus largement que les classes populaires. C'est ce que vous constatez d'ailleurs à la FAGE, Philippe Sosso.
Félix, pardon. Effectivement, mais c'est quand même ce qu'on voit, c'est beaucoup un salariat contraint sur des classes populaires, des enfants issus de classes défavorisées, et aussi beaucoup d'étudiants internationaux.
Alors
ça,
justement,
faut le rappeler, puisque c'est d'ailleurs
les étudiants étrangers, c'est à peu près 12% de la population 11,5, étudiante en France. Hein. Et depuis le plan de bienvenue en France présenté par le gouvernement en 2018, les étudiants étrangers ne sont pas soumis aux mêmes droits et frais d'inscription que les étudiants nationaux et européens. Ça veut dire qu'ils ont des frais d'inscription extrêmement élevés. En licence, pour un Européen ou un Français, c'est 170 euros l'année. Pour un étudiant étranger, c'est 2770 euros.
3700 licences l'année. En master.
Et en master, c'est encore 1000 euros de plus. Ça veut dire que concrètement, les étudiants étrangers aujourd'hui sont dans une situation, c'est la double peine là, en fait. Oui. Avec l'inflation, la précarité.
Je pense qu'on peut le dire, c'est un plan qui est relativement xénophobe, puisque ce qui se passe, c'est qu'on a des étudiants internationaux qui se retrouvent
à payer. Ne parlez pas trop vite, Félix Sosso.
Pardon, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc.
Oui, je sais.
C'est des étudiants qui se retrouvent, qui sont déjà en plus dans des situations de précarité avancée, pour pareil, appuyer sur du constat. Au sein des Agorae, donc les étudiants internationaux représentent 11,5% du public étudiant, et ils sont surreprésentés au sein des épiceries. On en a, donc pour prendre le cas d'Amiens par exemple, à l'épicerie, j'ai été responsable, donc je le sais très bien, on avait 80% d'étudiants internationaux et qui étaient dans les situations les plus précaires. Puisque bon, les niveaux de vie ne sont pas du tout les mêmes, qu'ils arrivent en France avec beaucoup de difficultés, et un accompagnement qui n'est quand même pas toujours terrible. Et ils se retrouvent en plus, double peine, à payer maintenant 2770 euros en arrivant sur le territoire français. C'est quand même assez lunaire. Et comme vous l'avez rappelé, en plus, il y a des difficultés à pouvoir se salarier, puisqu'il y a un nombre de travail qui est en plus, en fonction des pays, pas réalisable. Il y a un tas de problèmes aussi liés au visa. Nous, comme je l'ai dit, c'est un public qu'on rencontre constamment, aussi en précarité, que ce soit problème de logement, problème financier, etc. Et dans le système de bourse, du système de bourse et du système d'aide sociale, ils sont presque complètement exclus, puisqu'ils n'y ont pas accès.
Il n'y a pas de bourse du CROUS pour les étudiants étrangers.
Alors, il y a des systèmes d'aide, donc les ZAZA, ASAP, donc c'est des aides spécifiques. Bon, c'est un système un peu complexe, on ne va pas rentrer forcément dans les détails.
Et qui est très ciblé,
et surtout, donc c'est à partir de 2 ans en France, mais ce qui se pose problème, et ça, je pense que c'est juste important de le dire, sur l'élargissement des bourses aux critères sociaux aux étudiants internationaux, c'est que ce n'est pas le système en lui-même, là, qui est, bon, même s'il n'est pas terrible, qui est en problème, c'est surtout les conditions d'accès au titre de séjour, puisque les étudiants doivent justifier à peu près 600 euros par mois, ce qui les exclut d'office du système de bourse. Donc ça, c'est un truc qu'il faut avoir en tête. Demander l'élargissement aux étudiants internationaux, c'est avant tout réfléchir sur les conditions d'accès au titre de séjour.
Alors on va en reparler, bien sûr. Vous restez avec nous. Comment réformer les bourses, qui est un serpent de mer, pas très lisible, sans cesse repoussé depuis des années? Est-ce qu'il faut revaloriser les bourses et se concentrer sur les étudiants les plus précaires, ou bien est-ce qu'il faut étendre le système de bourse à plus d'étudiants, voire à tous les étudiants? On va en discuter, ça sera juste après JML.
Réussis pas les cahiers, c'est dur, c'est pour ça tu nous vas rapper à la télé. Si on se comporte comme elle est de baisse, c'est seulement pour de la monnaie. Faut Camilla, t'en tabac tous ces gens qui chantent depuis 3 pas. C'est des gens devenus Nasser Bagar.
Eh, m'dou, va t'y jouer, t'y baguin, on l'a ou un BD.
Ils te sont mis des droits, ils jouent tam tam pour aller à Paname. Si t'es pêché, parle pas de Rastaman. Si c'est pas ta même, tu es bête pour ne pas comprendre. Devenu policier niveau BPC, on te laisse du goudron, mais ta poche est blessée, il est midi. Et puis ça va pas qu'ils passent avec leur moto, là te rend des gris. Comment veux-tu t'en sortir?
Namana wana m'doua, il faut la quitter.
Namana wana, namana wana, m'doua, m'doua, namana wana, namana wana.
ya wanna copy for when not la fanga na mana wana ntawa ntawa na mana wana ya wanna copy for when not la fanga. Mtawa c'est dur, il faut s'arracher. N'attends pas la main divine pour te lever. La santé qui t'a donné est assez. Ne te flatte pas. Chante à me résumer son et ça marche grave. N'est ma faillite à mettre vie Maya Togo. Moi je crée mon business. Demain ami Faizi comme on se débrouille ici. Tu as ton master, ta licence. Ils s'en foutent, n'a même pas vérifié ton CV. De l'endroit, voilà ça ici. Mais nous sommes nés égaux, je compterai pas si quelqu'un pour manger. Chacun a son talent, donc tu peux toujours me critiquer. L'issue de ce coup, moi je vais la trouver. Pas que la nuit étudiant la journée. Besoin de plaques pour tenir la journée. Pourtant on a les mêmes rêves, pas la même chance. Namana wana tibo tuma tibo ribine tibo liri sui. C'est pour tous les vrais rois, pas du BF.
Vous écoutez 8 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI avec nos invités Louis Boyard, député du Val-de-Marne, La France Insoumise. Vous aimez beaucoup le programme musical.
J'adore le son.
Alors c'est du Moaga Trap avec l'artiste burkinabé JML. Et c'est une programmation musicale de Romain Dubrac. Et bien évidemment aujourd'hui nous parlons de la précarité des étudiants en France avec Maëlle qui a 20 ans, qui est étudiante à Sciences Po Paris, en échange à Berlin, qui est en liaison avec nous, avec vous Louis Boyard, député, avec vous Félix Sosso, porte-parole de la FAGE, premier syndicat étudiant en France, et avec vous Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France. Vous avez été très clair tout à l'heure, malgré votre étiquette d'économiste libéral, en disant qu'on ne pouvait plus continuer comme ça et que la précarité étudiante était un mauvais calcul sur le plan économique du pays. Vous soutenez un revenu universel de formation. Oui, ce qui n'est pas absolument du tout le cas à l'heure actuelle, hein, mais oui, avec des conditions, oui, avec une contrepartie de la part des étudiants. Expliquez-nous quelles sont vos propositions en tant qu'économiste.
Voilà. Oui, alors on me dit que je suis libéral, disons que je serais social-libéral ou un bon social-démocrate, je dirais, voilà, plutôt. Hein, c'est plutôt comme ça que je me considère, mais enfin, c'est aux autres. Oui, je propose un revenu étudiant qui s'élèverait… alors en fait, c'est une proposition que j'avais travaillée avec Frédéric Vidal, qui était le prédécesseur de la ministre actuelle.
De l'enseignement supérieur.
Et donc, on avait travaillé… Absolument. Et qui vient de la gauche comme moi, d'ailleurs. Et on avait travaillé ensemble là-dessus. Et on proposait, en fait… et j'avais travaillé, en fait, avec des gens à l'Élysée là-dessus. Mais on n'a pas réussi à imposer notre idée. Et l'idée, c'était de dire, voilà, un revenu mensuel… autour de 900 euros, APL compris.
Allocation logement.
Indexé, voilà. Alors peut-être indexé sur l'inflation, évidemment, ça ne peut pas peut-être, certainement, pour un étudiant qui aurait quitté le domicile familial et ne serait plus déclaré sur la fiche d'impôt des parents. Hein, d'accord ? Et ce revenu pourrait être complété par un revenu du travail, disons tutorat, service d'intérêt général, jusqu'à 200 euros par mois. Et la contrepartie, comme au Danemark, c'est évidemment… de suivre un parcours pédagogique, c'est-à-dire que vous devez un peu comme on fait pour l'emploi, tu dois avoir quelqu'un qui te guide, où tu montres que tu progresses. Tu peux rater des examens, tu peux rater des années, mais tu dois reprendre et tu dois quand même montrer que tu suis un parcours. Et donc c'est pas juste tu t'inscris et puis tu disparais et tu touches ton revenu. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche au Danemark. Au Danemark, si tu rates trop d'examens, à un moment donné, tu as quelqu'un qui vient te dire, cher monsieur ou chère madame, voilà, le revenu est un peu en question. Qu'est-ce que vous pensez faire ? On peut regarder ensemble, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une façon de s'assurer qu'il y a un tutorat des étudiants également. Donc voilà, c'est ça que je proposais avec mes amis. On a poussé ça auprès du président de la République. Il y avait un intérêt à un moment donné, mais à mon avis, Bercy a prévalu et ils ont bloqué. Voilà.
Alors,
et
donc, Bercy a prévalu, ça veut dire quoi ? Que ça coûtait combien de plus en milliards ? Alors, que les aides à l'heure actuelle.
On évaluait ça à peu près. Parce que moi je regardais le total. Moi je pense que par rapport à ce qui se faisait maintenant, je pense quelque chose comme 3-4 milliards de plus.
4 milliards.
Oui, dans ces eaux-là. Mais enfin, on est dans les milliards quand même. Hein. Donc voilà, à peu près 3-4 milliards de plus. Mais par exemple, si on retardait la baisse des impôts de production qui reste à faire. Ça, c'est des milliards, vous voyez, par exemple. Donc, on peut, Voilà, c'était 4 milliards et moi, ça me semble tout à fait raisonnable.
Mais ça veut dire, que, est-ce que vous, dans ces cas-là, dans cette proposition, vous, vous proposez de puiser notamment dans les subventions de l'État vers les entreprises pour l'apprentissage ? Je précise que l'apprentissage concerne aussi les étudiants de l'enseignement supérieur, hein, parce que le mot apprentissage peut prêter à des ambiguïtés.
Oui, alors, on avait nous un dispositif qui incluait en fait trois jambes. La jambe étudiant-étudiant, la jambe apprentissage et la jambe insertion. Et nous, on considérait que le total, ça serait à peu près 8-9 milliards pour le total, vous voyez, mais qu'on avait la possibilité de passer de l'un à l'autre. Vous voyez, donc nous, on étendait le revenu d'apprentissage à tous les apprentis entre 18 et 25 ans, et on ajoutait le revenu d'insertion. Et on mettait tout ça dans un grand dispositif avec des passerelles entre les trois. Vous voyez, c'est ça que moi j'avais en tête.
Vous citez le Danemark, vous citez beaucoup la formule danoise. Le Danemark, grosso modo, subventionne 91% de ses étudiants, quand la France en subventionne 68%. Et là, c'est quand on compte les allocations logement. Mais si on compte que le CROUS et les bourses, on a aux alentours de 33% de boursiers, c'est-à-dire à peu près un tiers des étudiants.
Ouais, et puis, ce n'est pas le même montant. Hein, sur les Danois, on est à 800 euros par mois. Oui. France, on n'est pas sur cette médiane-là.
Mais enfin, c'est vrai qu'il faut quand même compter aussi les aides au logement, qui sont aussi une aide sociale aux étudiants. On ne peut pas compter que les bourses.
Non, bien sûr, mais on est quand même très en deçà de mon revenu de 900 euros mensuels. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ça veut dire que pour vous, même pour vous, la France ne subventionne pas suffisamment les étudiants ?
Absolument. Absolument. C'est scandaleux.
Louis Boyard, votre parti, la France Insoumise, demande une allocation d'autonomie des étudiants, mais pas sur les mêmes principes que la proposition de Philippe Aguillon.
Non, parce que lui propose 900 euros qui seraient complétés ensuite de 200 euros si jamais il y a du tutorat qui est fait par les étudiants. Mais j'interroge, quels sont les étudiants qui n'auront pas à faire du tutorat, ceux qui ont la chance d'avoir des familles qui peuvent les aider à compléter? Quels sont les étudiants qui seront obligés de faire ce tutorat qui complétera? Les étudiants de classe moyenne et de classe populaire. Donc de fait, vous avez rupture d'égalité. Pour 200 euros par mois, vous pouvez faire un effort. Mais dans l'esprit, tout est là, parce que en fait, dans l'esprit,
mais pour vous, ça toucherait tous les étudiants, y compris ceux qui vivent sur le foyer fiscal de leurs parents ou pas ?
Non, justement, il faut sortir du foyer fiscal de ses parents, parce qu'il y a un débat de fond, il y a un débat de projet de société dans tout ça. Est-ce que c'est la famille qui doit financer les études, ou est-ce que c'est la solidarité nationale qui doit organiser l'autonomie de la jeunesse ? Nous pensons qu'à partir du moment où vous demandez aux familles de financer l'autonomie de la jeunesse, alors vous n'y arrivez pas, parce que les familles sont déjà pauvres. À partir du moment où vous organisez le pays, l'impôt, les familles, pour qu'on ait des revenus, pour qu'on ait des revenus qui soient loué par l'État, et bien dans ce cas, vous sortez de la logique familialiste pour rentrer dans une logique nationale.
Mais c'est ce que je propose.
Et oui, je sais, non, mais nous sommes d'accord sur le fond, c'est les deux.
On est d'accord.
Non, mais sauf que vous dites, Philippe Aguillon, vous dites que vous, votre proposition, il faut sortir du foyer fiscal de ses parents.
Mais c'est ce que nous proposons aussi.
Vous aussi. Oui, donc là-dessus, vous êtes d'accord.
Oui, bien sûr. On est d'accord.
L'UNEF propose depuis des années une allocation d'autonomie à tous les étudiants, sans condition de ressources. Quelle est la position de la FAGE là-dessus?
Écoutez, nous, on a une position en fait, qui est, je pense, assez similaire autour du plateau. Les différences qu'on a avec l'UNEF, déjà, je pense que ça va être l'aspect universel, puisque donc, nous, on est favorable à une bourse compensatoire qui soit individualisée. Mais finalement, dans la philosophie, ça revient au même, c'est d'avoir un revenu pour tous les étudiants, en tout cas un revenu, donc des recettes qui dépassent un certain seuil et qui permettent à tous d'étudier dans de bonnes conditions et de s'émanciper à travers l'enseignement supérieur sans avoir soit à se salarier de manière contrainte ou à dépendre des aides familiales, puisque dans beaucoup de cas, on a des situations de rupture familiale dans lesquelles les étudiants en fait, ne peuvent pas vivre correctement parce que les parents ne versent pas les pensions.
Est-ce donc, qu'une allocation d'autonomie universelle ne revient pas à aider aussi des étudiants très aisés finalement et qui se détacheraient artificiellement du foyer fiscal?
Je peux compter aussi là-dessus. Justement, on est aussi favorable à la fin de la demi-part fiscale, puisqu'il faut le dire aussi de manière honnête. Là, ce dont on parle, retirer l'enfant de la situation fiscale, ça veut dire défamiliariser. Donc, c'est-à-dire qu'on retire l'avantage qui est la demi-part fiscale, qui est un avantage qui bénéficie en fait aux ménages les plus élevés, les plus riches, pardon, puisqu'on est dans un système d'impôt progressif. Donc, c'est les ménages les plus riches qui bénéficient de cet abattement, pardon.
Louis Boyard.
Mais même quand vous êtes un étudiant qui a la chance de venir d'une famille aisée et que vous vous retrouvez loin de votre famille à devoir payer un logement, votre nourriture, en vérité, vous vivez sous le seuil de pauvreté. On a aussi le cas d'étudiants qui viennent de familles qui sont très riches, mais parce qu'ils n'ont pas été dans la filière que voulaient les parents ou pour des raisons, par exemple, d'orientation sexuelle, eh bien, vous vous retrouvez à avoir des familles qui coupent les vivres et ces étudiants qui ne rentrent dans aucun critère et qui se retrouvent en difficulté. C'est pour ça que le mot principal, c'est le mot autonomie. À partir du moment où on est majeur, où on est citoyenne, citoyen, où on dit que vous rentrez dans l'enseignement supérieur et que vous vous construisez par vous-même, pourquoi est-ce qu'on demande aux familles qui ne sont pas en capacité de le faire d'aider les étudiants et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas tout simplement d'organiser une solidarité nationale qui permettrait à tout le monde de vivre à égalité? Alors peut-être qu'il y aurait une ultra-minorité qui se retrouverait à avoir plus d'argent qu'il n'en faudrait, mais ça permettrait surtout d'avoir une ultra-majorité qui pourrait enfin survivre dans un moment où elle vit une précarité qui est dévastatrice.
Pourquoi aucune de vos propositions respectives, enfin sauf que pour la France Insoumise, vous avez sa figure dans un projet de loi, hein, mais jusqu'à maintenant, on a l'impression quand même qu'aucune de ces propositions, même les propositions les plus proches du pouvoir, ne semble en voie d'aboutir.
Parce que ces gens ne comprennent pas ce qui se passe.
Ces gens, ça veut dire quoi?
Parce que la classe politique, le gouvernement actuellement au pouvoir, les députés de la majorité, les députés du Rassemblement National, les députés LR, ces gens n'y connaissent rien à la précarité étudiante. Ils saisissent à peine la détresse qui a actuellement lieu. Je les vois tous les jours. Ces gens sont complètement déconnectés de la réalité que vivent aujourd'hui les étudiants. Et j'aimerais aussi insister sur les étudiants étrangers. On a un gouvernement qui, pour raison de contexte politique, rentre dans une logique ultra xénophobe où ils essaient de faire en sorte qu'il y ait le moins d'étrangers possible qui rentrent dans le pays. Non seulement ils ont augmenté les frais d'inscription pour les mettre à des milliers d'euros pour les étudiants étrangers.
C'est le cas dans de très très nombreux pays.
Oui, mais ils ont aussi organisé un système qui est encore plus vicieux. C'est-à-dire qu'en 2020, ils ont dématérialisé les demandes de titres de séjour pour les étudiants étrangers. Sauf que là où à l'époque ils avaient un récépissé qui leur disait qu'ils pouvaient travailler, maintenant, en attente d'une procédure qui est extrêmement longue, les étudiants étrangers ne peuvent pas travailler. Et c'est eux qui se retrouvent le plus en difficulté, non seulement parce qu'on leur fait payer des milliers, mais en plus on leur interdit de travailler. Et les étudiants étrangers vivent dans une précarité qui est monstre, même pire que celle de beaucoup d'étudiantes et d'étudiants français. Et ça, c'est organisé, c'est délibéré de la part de ce gouvernement.
Maëlle, vous êtes étudiante à Sciences Po Paris, vous êtes en échange à Berlin. Alors certes, vous êtes peut-être un peu géographiquement à l'heure actuelle éloignée d'une contestation étudiante, en tout cas d'une exaspération étudiante, mais via les réseaux sociaux quand même, on va dire que ça avance. Comment est-ce que vous avez le sentiment que les étudiants pourraient se mobiliser sur ces questions-là? Parce que pour l'instant, ça ne dépasse pas tellement le cercle des réseaux sociaux.
Je pense que c'est ce dont on a besoin, une vraie contestation, d'aller vraiment dans les rues et de juste faire du bruit et faire du chaos jusqu'à ce qu'on nous entende. Mais je pense que pour l'instant, il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas avec qui j'ai parlé, qui ont honte en fait et qui osent même pas, qui me parlent à moi, pas en anonyme, mais qui par exemple ne veulent pas aller parler aux médias s'ils sont pas anonymisés. Les gens ont honte, parfois ils ont même pas parlé à leurs parents de ça, donc en fait... Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un tel engouement autour de cette vidéo, c'est parce qu'en fait, j'ai pas honte de parler de ça. Sincèrement, on me donne pas assez pour vivre. Comment je pourrais m'en sortir, quoi? Je ne peux pas inventer de l'argent. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord passer au-dessus de cette honte que les étudiants ont de ne pas s'en sortir. Et juste, je pense que c'est pour ça que c'est très bien que ce soit dans les médias et qu'on en parle. Que juste, en fait, le système ne fonctionne pas et qu'ils se rendent compte que c'est pas eux qui s'en sortent pas, enfin c'est eux qui s'en sortent pas, mais c'est parce que le système il fonctionne pas derrière. Donc je pense qu'une fois qu'on aura passé ça, pourra peut-être plus y avoir des contestations étudiantes, enfin vraiment des étudiants qui sont dans cette situation et qui sortent, qui en parlent autour d'eux, jusqu'à ce qu'en fait les gens le gouvernement puisse pas faire autrement que de régler la solution.
Trop étranglé par les difficultés du quotidien, finalement, pour se mobiliser. Quand vous avez fait votre vidéo, Maëlle, qui a été vue plus de 8 millions de fois en 3 jours, votre mère, elle-même, à Mayotte, ne soupçonnait pas vos difficultés réelles?
Ma mère, elle sait... Ça, c'est vraiment, on a des difficultés financières depuis que j'ai 10 ans, donc nous, on en parle dans la famille, c'est vraiment pas trop problématique. Mais ma grand-mère savait pas, par exemple, elle m'a appelée, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui ai dit « Non, mais ça va, mais juste, j'ai toujours eu des problèmes financiers, mais c'est pas quelque chose dont je parle. » Enfin, si on me demande, j'en ai pas honte, mais c'est pas quelque chose que je vais crier sur tous les toits non plus, j'essaie de m'en sortir comme je peux.
Mais dans cette vidéo, ce qui est assez stupéfiant, c'est que quand vous demandez au Crous de réévaluer votre situation, situation, de considérer le fait que votre mère touche plus que ce qui vous permettrait de remonter en échelon de bourse, parce que votre mère travaille dans les dom-tom et que dans les territoires d'outre-mer, et que du coup il y a une, il y a des salaires qui sont réévalués en raison de, du niveau de vie qui est très élevé. Le Crous vous répond, et mais vous avez bien travaillé cet été, vous avez bien fait des jobs étudiants quand même pour subvenir à vos besoins pendant l'année, et vous dites au Crous, oui, mais j'ai envoyé de l'argent à ma mère, et on vous dit à ce moment-là, ben, il fallait pas.
Oui, en fait, j'avais appelé une assistante sociale déjà en juin et j'avais une aide d'urgence et j'ai rappelé parce qu'en fait, bah, j'avais besoin d'une aide d'urgence parce que je pouvais pas payer mon loyer. Et donc, elle m'a fait vraiment lui détailler mon budget. Elle m'a dit, bon, travailler, ça devrait pas vous désavantager l'été, enfin, mais quand même, vous avez travaillé, donc vous devriez vous en sortir financièrement. Et je lui dis, bah, juste, j'ai payé mes loyers, enfin, et juste, j'avais d'autres choses à payer, donc c'était pas possible, quoi. Sachant que, enfin, les billets d'avion, c'est mes parents qui les ont payés. Donc, quand moi j'ai pu les aider, parce que bah ils ont payé presque plus de 1000 euros de billets d'avion pour moi, je l'ai fait. Donc elle m'a, voilà. Donc après, oui, elle m'a un peu crié dessus pour me dire qu'il faut pas aider ses parents et que l'aide c'est pour moi et que bah mes parents ils devraient s'en sortir tout seuls, quoi.
Ouais, on a vraiment l'impression que c'est deux précarités qui se regardent en miroir. C'est Philippe Aguillon, vous souhaitiez intervenir?
Non, j'écoute ça avec grand intérêt et je
j'avais cru entendre votre voix dans le casque.
Non,
Louis Boyard. Sur la question de la honte, c'est vrai que moi-même, hein, j'ai été étudiant et j'ai été étudiant précaire et j'avais honte, j'avais vraiment honte. Et ensuite, j'en parlais à mes parents et mes parents, ils n'étaient pas non plus à l'aise avec cette situation. Et en fait, sur la précarité étudiante, vous avez les étudiants qui ont honte et les parents aussi, qui se disent, mais en fait, c'est moi qui devrais l'aider.
Une culpabilité.
Et oui, ils se sentent coupables. Et donc, c'est aussi ça aussi qui entraîne une omerta qui fait que les gens en parlent très peu. Alors qu'en vrai, qui sont les véritables responsables? Ce sont les décideurs politiques qui organisent un système dans lequel on demande à des familles qui n'en ont pas les moyens de financer l'autonomie de jeunes qui n'arrivent pas à survivre. La honte, elle n'est pas pour vous les étudiants, elle n'est pas pour vous les parents, elle est de la part du gouvernement qui organise ce système. Et j'insiste pour le fait de dire que ce système est organisé. Ils ne veulent pas sortir de la logique familialiste pour passer à une solidarité nationale. La honte, elle n'est pas de votre côté, elle est du leur.
Et on parle là d'étudiants, alors Maëlle n'est pas concernée, vous n'êtes pas concernée par l'augmentation des frais d'inscription à Sciences Po. Les frais augmenteront pour la rentrée 2023 de plus de 7%. Mais vu que vous êtes boursière, vous n'êtes pas concernée. Mais il y a aussi tous ces étudiants qui sont dans des écoles privées et qui sont littéralement étranglés par les frais d'inscription parce qu'on a aujourd'hui un pourcentage extrêmement important d'étudiants qui sont en école privée aujourd'hui.
Ouais, c'est un étudiant sur quatre qui est actuellement dans son privé. Il y a une croissance exponentielle en fait, de l'enseignement privé vis-à-vis de l'enseignement public. Bah, déjà, ça crée un système à deux vitesses. Ça crée une concurrence entre les établissements, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Et en plus de ça, en plus d'avoir des frais qui sont extrêmement élevés, il y a très peu de dispositifs sociaux en général dans ces établissements-là. Puis même de manière générale, en tout cas, la FH, c'est pas du tout le mode d'enseignement qu'on veut et le paysage d'enseignement supérieur qu'on veut, puisque généralement, c'est des écoles qui sont très calquées sur l'insertion professionnelle, là où nous, on voit un enseignement supérieur qui émancipe les jeunes et qui est aussi un lieu de travail intellectuel, de partage des connaissances, etc., et qui n'est pas uniquement calqué sur les besoins étriqués d'un marché du travail.
Et ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'il y a une augmentation de l'enseignement supérieur privé, c'est de plus en plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réforme qui s'appelle Parcoursup, dans laquelle on a mis en place une sélection, dans laquelle il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent à ne pas avoir la filière qu'ils veulent, ou tout simplement à ne rien avoir du tout. Et donc, du coup, derrière, vous avez tout un marché de l'enseignement supérieur privé qui est en train de, voilà, de gagner des parts, de gagner du terrain. Et là, encore une fois, c'est aussi organisé depuis 2018 par le gouvernement français.
Maëlle, vous êtes à distance, c'est pour ça qu'on n'entend pas forcément tout ce que vous dites, mais vous disiez à la régie technique que même vous, vous avez des inquiétudes sur d'éventuels frais d'inscription à Sciences Po.
Oui, en fait, je ne suis pas sûre d'être encore boursière le semestre prochain, parce qu'en fait, avec le salaire de ma mère, c'est possible que je ne sois plus boursière, parce qu'ils ont réévalué les salaires des fonctionnaires. Donc, s'ils n'ont pas réglé ça d'ici la rentrée prochaine, c'est possible que moi, qui m'en sors même pas, je me retrouve à payer des frais de scolarité de Sciences Po pour vous expliquer à quel point c'est fait n'importe comment, quoi.
Comment vous ferez concrètement ? Vous prendrez un prêt étudiant ?
Je sais pas si je peux faire un master si je dois le payer. Non, je veux pas faire un prêt étudiant, mais si je dois payer un master, je sais pas si je pourrais le faire.
Et pourquoi vous ne voulez pas faire un prêt étudiant ?
Ben, j'ai fait toute ma vie désavantagée. J'ai pas envie de commencer sur le marché du travail en ayant un prêt, parce que ma sœur, elle en a fait un. Elle s'est retrouvée avec 400 euros en moins sur son salaire, je crois, au tout début. Donc,
Philippe Aguillon, Louis Boyard nous disait « La précarité, les politiques n'y connaissent rien, ils ne comprennent pas ce que signifie la précarité étudiante, c'est pourtant pas si difficile à comprendre. » Pourquoi, dans le fond, politiquement, aucune des propositions de vos propositions respectives ne semble aboutir ?
Écoutez, au sein de... Emmanuel Macron a été élu sur l'idée du « en même temps » et très poussé par des gens venant de la gauche. Mais je dois reconnaître que c'est vraiment de plus en plus la droite qui domine, quoi. Et alors, effectivement, la configuration à l'Assemblée nationale fait qu'il a besoin, probablement, d'un soutien d'une partie des députés des Républicains. Donc, ça fait basculer vers la droite. Je crois qu'on est dans une configuration qui, malheureusement, l'oblige. On n'est jamais obligé, mais fait que dans la pratique... il se déporte à droite. On le voit sur ce débat des revenus étudiants. On va le voir aussi avec les retraites. Moi, je crois qu'il y avait vraiment un moyen de faire un vrai dialogue avec notamment la CFDT sur les retraites. Et je crois qu'à nouveau, c'est vraiment la droite c'est la partie droite du macronisme et ceux qui sont partisans vraiment des accords avec les Républicains qui prédominent. Voilà, je crois qu'on est bloqué par ça.
Louis Boyard, député du Val-de-Marne, La France Insoumise, NUPES, quel va être l'agenda politique pour vous, pour les étudiants ?
J'ai déjà juste, je pense que c'est pas innocent le fait qu'ils acceptent pas nos propositions. Parce que derrière, quand vous avez des étudiants qui abandonnent les études, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont voir, parce qu'il y a un service de l'État qui s'appelle Un jeune, une solution, et on les envoie dans l'apprentissage. Et en fait, c'est ça qu'organise Emmanuel Macron. Vous avez une partie des étudiantes et des étudiants qui peuvent aller dans l'enseignement supérieur et qui réussissent parce qu'ils en ont les moyens. Et l'autre partie, souvent les gens de classe moyenne et de classe populaire, on les envoie dans de l'apprentissage ultra subventionné et dans le peu qualifié dans lequel ils seront mal payés. L'agenda, c'est la réforme des retraites. Au moment de la réforme des retraites, organisez des assemblées générales. Organisez-vous les étudiantes et les étudiants pour non seulement faire entendre que vous n'êtes pas d'accord avec la réforme des retraites, mais aussi pour faire entendre dans le mouvement social vos revendications contre la précarité étudiante.
Il n'y a pas un risque que ça soit dilué dans le débat sur la réforme des retraites.
Oh, comptez sur nous, la FAGE, nous et l'UNEF et tout l'alternative, on sera là pour tenir les bons discours.
Ah, effectivement, vous êtes aussi opposé à la réforme des retraites. Donc,
je pense que les étudiants peuvent se faire entendre.
C'est des sujets convergents. De toute façon, les étudiants sont autant inquiets pour leur avenir que pour ce qui se passe actuellement.
Vous comptez les lancer dans la rue aussi ?
Si c'est nécessaire, on ira dans la rue.
Merci en tout cas à vous tous. Maëlle, merci pour votre participation. Vous êtes étudiante à Sciences Po. Merci à vous, Félix Osso, porte-parole de la FAGE. Merci à vous, Louis Boyard, député. Merci à vous, Philippe Aguillon, économiste. Merci à toute l'équipe, Damien Roucou, Zainaba Diallo, Divine Bertou, Arthur Geoffroy et Victor Hull qui étaient à la technique. Toutes nos émissions sont à réécouter bien sûr en podcast, et demain 8 milliards de voisins, on parlera de l'argent dans le couple. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ? C'est une question pas si simple qui va bien au-delà du salaire des femmes. Dans quelques instants, le journal, et on se quitte avec Guts.
Quítate los audífonos.
Entre tú.